Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission des livres et des lires. Aujourd'hui, autour de cette table, la charmante Françoise Ducray. Bonjour Françoise.
Bonjour Marie.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Oui, j'ai pris un ton comme ça, un petit peu soir.
Oui.
Pour une émission du matin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Marie. Bonjour
à
tous et bonne année à tous.
Bonjour Christophe.
Attention, bonjour, Christophe. Bonjour Marie.
Oui. On ne va plus jamais rediffuser cette émission. Vous avez dit bonne année.
Oui.
Parce qu'imaginez un 15 avril. Et bonne année à tous. Pas du salut.
Oui, mais moi je voulais dire bonne année. Souhaiter une
très
bonne année.
Vous êtes bienveillante. Vous êtes bienveillante.
Oui, mais oui, c'est pas un gros mot.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Tous nos vœux de bonne lecture et nous allons tenter de contribuer. Voilà, en vous proposant
modestement
évidemment, parce que souvent on tombe sur des trucs pas terribles. Hein, on n'a pas le nez creux tout le temps. Alors là, on est assez fiers parce qu'il s'agit d'un livre d'un garçon de chez nous. Donc c'est toujours une petite excitation. En plus, c'est un premier roman. Julien Batteste, c'est son nom, nous propose L'imitation de Bartleby. C'est un roman paru chez Gallimard dans la collection L'Infini. J'espère qu'il va nous écouter, voilà, et parce qu'on va aussi un peu le critiquer. Alors, le 29 juillet 2010, à Zurich, Michel Kos. Vous vous souvenez de Michel Kos ou pas du tout ?
Moi, je ne la connaissais absolument pas.
Bon, moi, je m'en souvenais très bien. Théoricienne féministe et traductrice a choisi de dénaître en mourant par suicide assisté le jour de son anniversaire, d'où le dénaître. Se pourrait-il qu'existe un lien entre sa mort et celle du personnage du livre Bartleby le scribe, qu'elle avait traduit en français ? C'est ça qui est assez incroyable. Telle est la question qui travaille le narrateur, un étudiant en théologie qui commence à bien connaître les évangiles, où il a lu cette phrase « Cherchez et vous trouverez ». Julien Batteste, donc, a réellement fait des études en théologie. Il a été également fasciné par cette nouvelle de Melville, Bartleby le scribe. Et il a été aussi très interrogé par la démarche de cette femme. Au commencement d'ailleurs, il ne savait même pas qu'elle était traductrice. Il ne connaissait rien de sa vie professionnelle. Et puis, évidemment, il a réuni les deux dans ce texte, ce court texte hein, d'ailleurs, qui je trouve est quand même vachement bien pour un premier roman. Ça, c'est mon opinion. Françoise.
Ah bah moi je dirais même que c'est le premier livre d'un futur grand romancier à mon avis. Très 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 bon. C'est vraiment c'est une écriture assez classique. J'allais dire quand on relit Bartleby de Melville, je regarde Bénédicte, c'est un peu cette écriture classique. D'abord c'est à la première personne comme dans Bartleby. Il y a cette espèce de détachement aussi. Et donc il y a quelques maladresses, hein, moi que j'ai notées, notamment dans les descriptions. Enfin, c'est un premier roman et je trouve que c'est extrêmement bien mené sur une centaine de pages, un récit. Moi, j'ai trouvé ça formidable.
Il y a une trentaine d'années, hein, Julien Batteste.
Ouais. Ouais. Et c'est aussi le livre d'un érudit, bien sûr. Hein, et ça, c'est toujours intéressant. Et c'est un livre, me semble-t-il, sur. C'est ça qui m'a intéressée, sur le signe, sur les mots. D'abord parce qu'il y a énormément de résonance dans ce livre. On passe d'un réseau à un autre. Alors d'abord il y a cette situation de départ où il a des hernies discales.
On rappelle peut-être vite fait voilà, Bartleby, c'est... juste pour que les auditeurs, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu ou qui l'ont lu il y a très longtemps. Donc Bartleby, employé en qualité de copiste dans un cabinet juridique, qui vient peu à peu, au fil du temps, à ne prononcer qu'une phrase énigmatique. I would prefer not to. Je préférerais ne pas ou j'aimerais mieux pas. Voilà pour les traductions en français qui divergent selon les traducteurs et selon les analystes, parce que broyé comme ça par un système. Voilà.
Oui, alors il y a eu beaucoup de philosophes, d'écrivains qui se sont penchés sur cette nouvelle qui est un peu culte maintenant et dont on s'interroge. Sur le sens. Hein. Et c'est aussi la démarche de Julien Batteste dans ce livre, parce qu'il commence par dire, bon, finalement, peut-être qu'il n'y a pas de sens caché, et puis lui-même en trouve un. Donc je disais des résonances, parce que lui-même, son personnage, il écrit à la première personne, il a trois hernies discales, il est allongé par terre, c'est un peu une situation un peu surréaliste qui fait penser à Bartleby, je trouve, puisque c'est une histoire aussi assez
surréaliste. Il est enfermé dans son corps, hein. Il est enfermé dans son corps. Il n'est que souffrance.
Et il trouve sur Internet un mot, il cherche un mot, et il trouve par hasard cette histoire de Michel Causse, qui était même elle-même linguiste et qui elle-même a inventé un langage, parce qu'elle trouve que le langage, dans toutes les langues, hein, le langage humain est trop masculin, trop pour les hommes. Bon, c'est une féministe, vous l'avez dit, très radicale. Donc, elle joue sur les mots, elle invente un nouveau langage. Et lui va chercher dans la Bible aussi, dans l'histoire de Moïse, des résonances avec Barthelby.
On est déjà dans l'écriture inclusive ou pas du tout avec Causse? Bénédicte.
Je pense que c'est plus que ça. C'est au-delà de ça. Elle réinvente un lexique. Ouais. Hein,
elle invente un lexique. Voilà, il y a plein de néologismes. Mmh. Donc elle invente tout un langage. Hein, un peu. Voilà.
Moi, et alors, puis se suicide. Hein, elle se suicide devant les caméras. Hein,
suicide assisté. Attention.
C'est un suicide assisté. Hein, puisque elle va dans un institut en Suisse qu'on connaît parce qu'on en a entendu parler encore, je crois, dernièrement. Et elle se suicide.
Mais on l'a vu, surtout. Enfin, moi, j'ai assisté. Je m'en souviens.
Ah, voilà.
Surtout,
mais oui, voilà, mais oui, parce que ça a été filmé. Ouais. Bon. Et ce suicide de Michel Causse rappelle le suicide de Barthelby, qui rappelle aussi le suicide de Gilles Deleuze, qui a été un exégète de Barthelby. Donc c'est un livre plein de résonances, et moi je me suis vraiment régalée. Et en plus c'est un récit qui coule, c'est un style vraiment Vraiment, c'est à lire, je pense, parce que...
Qui a envie de s'exprimer?
Parce qu'il y a aussi cette... Ouais.
Je trouve
aussi des explications dans Barthelby, et notamment à travers l'histoire de Moïse. Et puis moi, un truc auquel j'avais pas pensé, parce que Barthelby, ça se passe à Wall Street, et le personnage est devant un mur, à travers la fenêtre, il passe sa vie devant un mur, et Wall Street.
Eh oui, mais oui. Ouais,
ça, j'y avais pas pensé.
Pas sortir non plus du CNRS pour comprendre Wall Street, le mur.
Non, ça, j'avais pas.
On dit pas qu'il faut sortir.
Non, mais attendez.
Des fois, on
attendez,
pas
Christophe.
Tout de suite, mais qui est horrible, lui, en 2020.
Je ne veux pas de caricature. Ce n'est pas du tout le propos essentiel du livre,
pas
évidemment.
Du tout. Mais voilà, de temps en temps, on pense à quelque chose. On était passé
mais
à côté.
Pour
il y a,
moi, c'est
il y a quelque chose d'intéressant également. Pour ceux qui se sont penchés un peu sur la théologie, notamment sur la Bible, c'est que Melville était un grand lecteur de la Bible.
Bah, évidemment.
Ce qui est le cas de Julien Battesti aussi. Ouais. Donc voilà, c'est pas un roman, tiens, j'ai aimé Barthelby, j'ai vu Causse. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je le dis avant que Bénédicte le dise.
Non.
Je réunis les deux.
Au contraire, c'est des résonances très subtiles entre toutes les œuvres.
Trop subtil pour moi.
Bénédicte.
Non, moi, j'ai eu très peur en le débutant, en lisant la quatrième de couverture, en découvrant comme ça ce personnage allongé par terre qui ne peut pas bouger. Je me suis dit, oulala, ça va être... Je trouvais ça même un peu kafkaïen, je pensais à la métamorphose, etc. Mais finalement, je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant, mais pas complètement abouti. Parce que vous parlez, donc il y a ce parallèle qui est établi entre Michel Causse et Barthelby, mais aussi entre Barthelby et Moïse, et aussi, d'une certaine façon, entre Barthelby et quand même ce narrateur qui est sans doute l'auteur. Alors, je vois bien, et là, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas totalement, et c'est ce qui est un peu gênant, parce que c'est tout de même le propos du récit. Alors, je vois bien ce dont parlait Françoise, les échos, les résonances qui peuvent exister comme ça entre les personnages à la fois réels ou fictifs, mais parfois, pour moi, ce n'est pas toujours suffisamment signifiant. Alors, peut-être aussi que je ne suis pas suffisamment subtile pour cerner toutes les finesses de ces échos. J'ai quand même été gênée aussi par les 10 pages. Alors, et 10 pages, c'est important quand un roman en fait, quand un récit en fait 104, qui résume Barthelby. Moi, ça me gêne. C'est quand même, on est dans la paraphrase. Donc ça m'a gêné. Mais après,
ça fait deux fois qu'on le vit, ça. Hein.
Ben oui. Non. Alors c'est beaucoup mieux chez Julien Battesti que chez Daniel Pennac. Ouais. Attention. Mais pour moi, voilà, ça n'a pas sa place dans ce type de récit. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir combien Barthelby continue de fasciner et d'intriguer. Alors il cite Deleuze qui lui disait il n'y a absolument aucune portée symbolique dans ce texte. Et en fait, on ne cesse de voir des symboles des métaphores.
Non,
dans,
lui disait c'est de l'absurde, c'est voilà, c'est un.
Non, mais il disait voilà, et surtout qu'il faut arrêter de chercher.
Surtout qu'il a été fait en 1850, je crois, il n'y avait pas encore de dimension politique chez.
Voilà.
Chez
alors, il disait même que c'était comique, que c'était une nouvelle comique.
Et voilà. Mais alors, et là où j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, parce que moi je le vois aussi comme ça, cette espèce comme ça de passivité. Mais le personnage de ce récit, moi je l'ai trouvé attachant, et d'autant plus à la lumière de ce que vous dites, parce qu'on imagine qu'il est assez proche effectivement dans l'auteur. Et moi je l'ai suivi de l'auteur, et moi je l'ai suivi très volontiers dans ses cheminements intellectuels, notamment quand il se réfère à la littérature. Vous avez dit c'est un érudit, et ça c'est quand même extrêmement extrêmement plaisant. Moi j'aime ce qu'il dit. Je trouve qu'il y a une très très belle phrase dans ce qu'il dit de la littérature quand il explique que d'une certaine façon elle l'a sauvé en même temps qu'elle a un peu détaché du monde. Il dit « Car c'est la littérature qui fit pour moi office de lieu naturel, le lieu le plus sauvage et le seul respirable. »
Bon, il a une
très beau.
Pensée extrêmement limpide
alors, y a
et
des
très
choses...
sympathique. Est-ce que vous n'avez pas...
Alors, moi, ce qui
vous ne trouvez pas que ça déborde de...
Ce qui m'a le plus, à mon avis,
et d'humour,
c'est,
d'humour,
voilà, ouais. C'est l'absurde. Donc ouais. Là, c'est là, pour moi, le lien se fait avec Bartleby. L'absurde, l'auto-dérision dont il est capable, j'adore cette phrase. Je sais si peu... Parce qu'il dit, voilà, si je devais me suicider, la seule chose qui m'intéresserait, c'est peut-être d'être réincarné dans un excellent auteur. Mais parce qu'il dit, je sais si peu de choses sur mon propre compte que la seule idée de narrer ma vie aux autres me cause une lassitude comparable à celle qui s'empare de certains chameaux devant l'entrée du désert. Bon, ça, moi, ça me fait plutôt sourire. Et il y a comme ça des formules qui sont extrêmement extrêmement drôles. Il dit beaucoup de choses sur la littérature. Moi, j'ai aimé ce qui quand il parle de Flaubert, quand il évoque le grand livre sur rien. Ces auteurs qui ont voulu écrire
absolument
comme ça sur le rien. Et il dit les grands livres sur rien. Même les meilleurs ne parviennent jamais tout à fait à les écrire. Donc voilà, il y a de nombreuses références. Il y a les questions de Joyce, il y a les questions, on l'a dit, de Deleuze, après d'auteurs plus confidentiels comme Violette Le Duc. Et je l'ai lu.
Violette Le Duc, confidentiel.
Oh, tout le monde a lu.
Non,
vous avez lu Violette Le Duc.
Certainement pas, non.
Pourquoi vous avez lu tout Violette Le Duc, vous?
Pas tout Violette Le Duc, mais quand même.
Vous avez lu? Moi, j'ai jamais lu Violette Le Duc. Hein. Ah, je la connais.
Oui, mais alors vous n'êtes pas classique parce que vous êtes prof, donc
je suis un peu la caricature.
Vous vous forcez à relire les classiques pour les cours, mais vous ne prenez aucun plaisir, ce qui n'est pas le cas de Françoise.
Non, mais voilà. Bon, alors, excusez-moi. Violette Le Duc, auteur ultra connu, mais
n'en faites pas trop quand même. Hein.
Mais bah du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire.
Vous avez perdu votre fil.
Voilà, j'ai perdu le fil. Donc je l'ai lu volontiers et je suis d'accord sur la fluidité. On le lit avec plaisir et
il déroule un récit. Il a une manière de dérouler
ce côté
son récit
comme ça.
Formidable.
Je trouve que là où ça manque de cohésion, c'est dans l'agencement de tous ces parallèles. Moi, il y a quelque chose ici qui ne... Alors, c'est un premier roman, mais qui ne fonctionne pas toujours parfaitement.
Bon, mon cher Christophe.
Bah écoutez, après toutes ces fleurs lancées, moi je l'ai lu, donc. Et par contre,
c'est un bon début.
C'est déjà pas mal.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis allé jusqu'à la fin. J'ai lu un petit peu tous les auteurs qui étaient dans la collection L'Infini. Vous avez pas vu, vous n'avez pas fait gaffe, vous. C'est marrant, ça. Vous lisez pas tous les livres,
non.
En fait. Vous arrêtez quand il y a marqué fin.
C'est vrai.
Eh ben, dans la liste des auteurs, il y avait Gabriel Matzneff, à l'infini.
Non.
C'est dirigé par Philippe Solaire, ça.
Une
collection dirigée par Philippe Solaire.
Et on est peut-être un peu dans l'actualité, non?
On est complètement dans l'actualité. Absolument.
Parce que moi, je le connaissais pas, ce Gabriel Matzneff. Parce que moi, je suis pas très auteur contemporain.
Alors moi je le connaissais pas du tout. Hein.
Et je trouve que ça vomir ce qui se passe dans le monde de l'édition française. Franchement, quand j'entends Bernard Pivot en 1990 qui demande, alors vous préférez les lycéennes et les minettes, Bernard Pivot.
Non, il le dit. Alors il va plus loin que ça. Il va plus loin.
Je m'en fous.
Il dit, vous l'aimez avec les minettes. C'est insupportable ce que fait Bernard Pivot.
C'était quand même le président de l'Académie Goncourt jusqu'à peu, c'est ça. C'était quand même le type qui représentait les lettres en France. C'est à vomir. Je suis écœuré, mais à un point.
C'est beaucoup ressorti sur les réseaux sociaux, on l'a partagé nous-mêmes.
Non, pas seulement sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai lu le Libération de lundi dernier, où Libération fait ses excuses, Laurent Geoffrin fait ses excuses.
Oui, mais enfin, il parlait débat, comme c'est horrible. Des débats avec des jeunes filles.
Non, mais attendez, ce qu'il faut savoir, c'est que j'endormais.
Ça, c'est Libé.
Excusez-moi, Marie. excusez-moi, j'en place une quand même. Jean d'Ormesson a soutenu Gabriel Matzneff dans le Figaro littéraire. Absolument. Philippe Soller a traité Madame Bombardier de connasse sur
et de mal baiser. Voilà. Et de mal baiser.
Ces gens-là à qui on fait des statues.
Alors, je ne sais pas si on est très clair là.
Si, on est très clair. Non, on parle de la collection infinie.
Non, mais pour les auditeurs. Denis Bombardier, donc.
Non, il y a un livre qui sort. Il y a un livre qui sort qui s'appelle La Controverse.
Ouais, journaliste,
non,
auteur.
Le consentement, le consentement de Spinguera.
Journaliste, auteur, qui a été invité maintes fois chez Bernard Pivot, est invité ce jour-là en même temps que Matzneff.
Moi, je fais un petit pas de côté parce que c'est...
Pivot, vous avez raison, interroge Matzneff sur son livre en lui disant « Oh, les minettes, vous n'aimez que les minettes ». En gros, les minettes, c'est des fillettes hein, de 14 ans.
Oui, ce sont des enfants.
Voilà,
ouais,
des enfants.
Voire moins. Donc, et donc, des petits garçons, des petites filles. Non, c'est abominable.
Et il se targue de les sodomiser, d'adorer ça et tout ça, et de dire qu'il est encore avec elle et que certaines, il les voient encore. Donc, c'est absolument abominable sur le plateau. Et la seule personne qui s'insurge et qui dit « Mais c'est juste pas possible », c'est donc la Québécoise Denise Bombardier. Voilà, juste pour rappeler les faits.
Oui.
Et il est dans la même collection que Julien Batteste, mais ça n'est pas la faute de Julien Batteste.
Voilà. Non, mais c'est, ça n'a rien à voir. Mais c'est, comme vous avez déjà parlé de Julien Batteste, vous avez dit tout le bien que vous en pensez, on fait un petit pas de côté, parce qu'on ne peut pas, dans une émission de livre, ne pas parler de ce scandale.
Non, vous avez raison, vous en profitez
Et moi, ce qui me saoule en France...
Ça n'a rien à voir avec Julien Batteste, c'est tout ce que je veux dire.
C'est les statuts que l'on fait aux auteurs. Parce que des gens écrivent des livres, on en fait des super-héros.
Donc ils ont une impunité.
Moi, je préférerais qu'on fasse des super-héros des infirmières dans les hôpitaux publics, ou des enseignants qui font aimer les livres. C'est comme, je vais prendre un autre exemple, PPDA. PPDA, on en fait une statue. Alors moi, j'ai regardé un petit peu PPDA. Vous savez qu'en 91, il avait fait une fausse... Vous vous rappelez, en 91,
oui,
vous étiez fausse interview de Fidel Castro. Il a été condamné ensuite pour recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire Michel Noir. 500 000 francs, il avait touché. Ensuite, plagiat de la... Et nous, quand on fait un festival à Bastia, tiens, comme ça, on fait local, on fait un festival de journalisme qui en invite PPDA. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas qu'on n'ait pas ce regard sur l'actualité et qu'on dresse comme ça qu'on tresse des lauriers à des personnes qui valent pas le coup. Voilà.
Mais c'est ce que dit d'ailleurs.
C'était mon petit coup de gueule.
Non, mais d'accord. C'est ce que dit d'ailleurs Denise Bombardier. Elle dit ici, chez vous, en France.
Ah oui, mais on se dit comment en 90 un homme peut parler.
Voilà, il y a un véritable. On l'a jamais lu. Il y a un véritable souci, c'est-à-dire que
personne ne le lit.
Moi, je n'ai jamais lu.
Il a un logement social de la ville de Paris.
Je peux m'exprimer. Où elle dit, c'est quand même étrange que si vous faites partie du cercle littéraire, tout est permis. Vous avez une impunité incroyable. Et on peut dire donc, je sodomise des filles, des filles
de
14 ans,
et
l'écrire.
Voilà, je fais du tourisme
et
sexuel.
Et vendre du roman.
Ouais. Je fais du tourisme sexuel et je suis publié chez un des plus grands éditeurs de France. Ma foi.
Bon, et sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'imitation de Bartleby?
J'ai trouvé ça bien. La fin m'a un peu laissé
gêné,
sur ma faim. Tiens, voilà. Pas gêné, non, pas gêné, mais c'est vrai que... Il y a tout un passage dans un bus.
Moi, j'ai bien aimé la traversée de Zurich.
D'accord.
Moi aussi, j'ai bien aimé.
Ça m'a beaucoup
plu. Sinon, le personnage de Michel Coste, je le trouvais fascinant.
Bon.
Voilà. Et on en revient donc justement au phénomène de patriarcat. Encore une fois, les deux personnes dont on parlait, Matzneff et PPDA, ce sont des hommes encore. Pour des femmes, est-ce que ça aurait pu se passer comme ça? Je ne pense pas.
Jamais de la vie.
Voilà.
Mais jamais de la vie, bien sûr.
Et oui, ce que je voulais dire aussi, vous avez parlé...
tout est politique.
Vous avez parlé du côté politique qu'on a voulu donner à Bartleby parce qu'il se laisse mourir, parce qu'il est au milieu de Wall Street. Mais ce qui est... Alors peut-être ce n'était pas du tout l'intention de Melville. Mais ce qui est très drôle, c'est que ça a perduré quand même jusqu'à des mouvements comme Occupy Wall Street, où on a brandi des pancartes avec Bartleby. Donc c'est assez drôle comme ce personnage est encore vivant aujourd'hui.
Il infuse dans les consciences.
C'est ça, exactement.
Alors voilà, on vous propose l'imitation de Bartleby chez Gallimard dans la collection L'Infini. Si vous ne voulez pas la boycotter. Et c'est Julien Batteste.
Ah, c'était pas, c'était pas mon propos.
J'essaye de mettre un petit peu d'humour.
Faites-moi un clin d'œil.
Mais vous savez à quel point je suis d'accord avec vous.
Je sais.
On l'a déjà évoqué ensemble. Ce serait d'ailleurs bizarre que je ne sois pas d'accord, mais bon. L'imitation de Madame Bartleby chez Gallimard dans la collection L'Infini. Julien Batteste, on a beaucoup aimé. On vous le conseille. C'est un Ajaxien. C'est un trentenaire. C'est un premier roman.
Et on l'encourage.
Et on l'encourage. et on a envie qu'il vienne à notre micro pour nous parler de ce livre. Qu'est-ce que vous nous proposez, les amis, d'autres ?
Moi, j'ai lu un petit polar catalan. Enfin, je dis petit polar, pourquoi petit ? Non, c'est un polar.
C'est pour
catalan.
La semaine prochaine, ça ?
Non, pas du tout. Ah. Non, c'est un bonus de, oui. De l'émission. Ce que la mort nous laisse de Jordi Ledesma. Et il y a un très fort raisonnement avec la Corse parce que ça se passe en fait dans un petit port catalan des années 90 qui est progressivement transformé à la fois par le pognon et qui dit pognon dit station balnéaire dit cam. Et il y a toute une micro-société qui va partir en brioche, bon, avec ce qu'il faut de meurtres et compagnie. Et je trouvais que c'était, il y avait, comme on dit, une résonance par rapport à la Corse. Et c'est très, très recommandable, ce que la mort nous laisse chez Asphalt.
Très bien. Bénédicte.
Alors moi, rapidement, Londres de Virginia Woolf, donc publié chez Rivage. C'est un recueil, traduit de l'anglais donc, par Chloé Thomas. C'est un recueil de 14. Alors ce sont à la fois des articles, des extraits de journaux intimes ou parfois juste des petites réflexions qui ont pour point commun d'évoquer Londres. Alors, si on aime Virginia Woolf, on aimera évidemment ses textes. C'est-à-dire qu'elle vous fait le premier texte, qui est un de mes préférés, s'appelle « Courir les rues, Londres à l'aventure ». Et sous prétexte du besoin impérieux d'aller acheter un crayon, le personnage de cet article, dont on suppose que c'est elle, sort en fin d'après-midi de chez elle et elle va parcourir comme ça traverser la moitié de Londres. Et cette moitié de Londres que vous décrit Virginia Woolf est un pur enchantement. Elle vous intègre à ce qu'elle appelle cette vaste armée républicaine des randonneurs anonymes dont la compagnie est si agréable après la solitude de votre chambre. Et elle vous fait voir une ville de Londres évidemment que vous n'avez jamais lue ou jamais vue. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a les beaux quartiers. Il y a évidemment le célèbre quartier de Bloomsbury où elle a fini par s'installer, un quartier d'intellectuels, etc. Mais il y a aussi des endroits insolite. Elle décrit merveilleusement les docks, parce qu'on la voit toujours aussi un petit peu raffinée, délicate. Non, quand elle décrit les docks, c'est admirable. Et puis il y a toutes sortes de gens, il y a les grandes bourgeoises, oui, mais alors je ne connaissais pas l'expression, j'aime beaucoup, il y a aussi les faiseuses de plaisir, il y a des personnages réels et inventés. Et si vous voulez, je trouve que sa description de la ville est terriblement
donneuse
moderne.
Donneuse de plaisir, c'était mieux
là, donneuse de plaisir. Bon, je regarderai en anglais ce que ça donne. Elle dit comme ça toute l'agitation, tout le mouvement de cette ville. Et il y a toujours cette écriture de Virginia Woolf qui ne ressemble quand même à aucune autre écriture, avec un sens de l'image et de la métaphore qui fait que vous voyez, vous entendez, vous sentez ce qu'elle dit. Moi, l'écriture de Virginia Woolf est quand même vertigineuse et elle nous dit, ça je reprends ces mots, la fragile beauté du monde comme personne. Et en plus, c'est la reine du point virgule qui est mon point de ponctuation, mon signe de ponctuation préféré, qui est beaucoup critiqué. Ah non, elle maîtrise le point virgule comme
d'où
personne.
D'où on a un signe de ponctuation préféré.
Parce que plus personne n'utilise le point virgule et je milite.
C'est comme le dodo, tout ça. Vous aimez tout ce qui disparaît. Okay.
Mais à quoi sert le point virgule ?
D'accord. Eh bien, justement, c'est une coupure moins franche que le point, mais plus forte que la virgule, comme son nom l'indique. C'est formidable.
C'est un peu tiède.
C'est plus qu'hier et moins que demain. C'est plus qu'hier et moins que demain. En tous les cas, vous êtes hyper sexy quand vous parlez de Virginia Woolf.
Ah
on
bon
sent que ça vous anime. Non, on sent que ça l'anime et ça me donne envie de relire.
Relisez Virginia Woolf.
Merci beaucoup parce que carrément vous.
Ah oui, tant mieux parce que voilà.
Vous transpirez la sensualité, quand vous parlez de Virginia Woolf.
Pourtant, j'ai un haut très strict.
Ah oui, hyper strict. Un extrait peut-être de L'imitation de Bartleby, notre livre commun de ce jour, ma chère Françoise. Vous aviez quelque chose à ajouter ?
Non. Lisons un extrait.
Retenu par l'idée exagérée que je devais une sorte de fidélité à Dolly, je ne m'étais pas avoué tout de suite que Mademoiselle Laurent était belle. Pour la première fois de ma vie étudiante, je m'installais au premier rang afin que cette beauté puisse se déverser sur moi sans faire de rebond. Du simple fait qu'elle m'enseignait, je me trouvais moralement autorisée à la dévisager. Deux ou trois leçons sur Abraham et je deviendrais incollable sur son épiderme. D'une poche intérieure de ma veste, je sortis deux feuilles blanches, un stylo bille et me mis à prendre des notes, presque sans regarder le papier, comme dans une séance de dictée spirit. Or, cet esprit avait une chair et cette chair soulevait des questions concrètes. Comment un corps si menu pouvait-il servir de support à tant de couleurs ? La lumière blanche des néons électrisait le bleu de sa chemise, dont les six boutons fermés acheminaient brusquement la vision jusqu'à son cou, long, fin et bicolore à cause de l'ombre des cheveux.
Attendez, ça, vachement bien
écrit. Quand même le dire, non, parce que moi j'ai mis quelques critiques. Il y a de vraies qualités d'écriture.
Allez, pour Julien Battès.
Bravo Julien.
De vraies qualités d'écriture et rien.
Le nombre d'élèves, les filles, qui ont dû vous observer. Comme ça, pendant que vous étiez en train de donner cours toutes les deux.
À l'école primaire, pas vraiment, mais.
Mais pourquoi?
Au CM2. Mais papa, à l'école primaire.
Oui, mais c'était pas.
Mais
en
attendez,
classe.
Au CM2, on commence pas à regarder l'institutrice ou même.
Parler.
Voilà,
ouais,
voilà. Serge. Non, mais Serge qui réalise cette émission était amoureux de son institutrice et c'est pas le seul au monde.
D'accord. Mais de façon platonique.
Bien sûr. Alors attendez, on a le droit de dire qu'on est amoureux de son institutrice. Attendez, faut pas non plus.
C'est pas le retour de la morale voilà. Non plus.
Un livre que vous nous conseillez.
Oui, alors j'ai commencé à lire, ça m'est tombé comme ça entre les mains, Ce que tu as fait de moi de Karine Gebel. Eh ben écoutez, c'est vachement bien. J'ai du mal à m'arrêter de lire. C'est l'histoire. Christophe n'est pas d'accord, mais tant pis. C'est l'histoire d'une garde à vue, par l'IGPN de deux policiers, un commandant et un adjoint, une adjointe. Et au cours de cette garde à vue, on comprend par le récit des gardés à vue eh bien, ce qui s'est passé auparavant et le suspense est entier jusqu'à la fin, je suppose. Et c'est vachement bien.
Ce que tu as fait de moi, Karine Gebel.
Gebel
chez Belfond. Ça ne me donne pas du tout envie. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.